Bonjour les devs, bienvenue sur Double Slash, le podcast indépendant qui parle de développement web et d'IA, le podcast indépendant qui n'a pas de sponsor, tout ça, voilà.
À part les personnes.
À part nos sponsors sur GitHub, et c'est super cool à vous de nous sponsoriser, merci encore. Et oui, évidemment, comme d'habitude, nous sommes avec Alex, salut Alex.
Salut Patrick, oui, un grand merci à tous les sponsors qui le font via GitHub Sponsor, ou en tout cas en partageant le podcast. On revient aujourd'hui avec un épisode de news, l'actualité comme toujours ça bouge, du TypeScript, du PHP, de Bun, des MCP. On va aborder tout ça dans cet épisode qui risque peut-être d'être un peu long, mais c'est pas grave, on va essayer d'être le plus exhaustif possible pour brosser un petit peu l'actualité du web. On attaque tout de suite Patrick ?
Allez, c'est parti.
Premier sujet, alors je sais que toi et moi, on est plutôt fans de Perplexity, qui est un peu la fusion entre Google et ChatGPT, si on devait faire un peu court. Néanmoins, tout est privé. Là, il y a une solution open source qu'on vient héberger nous-mêmes dans notre propre infrastructure et sur laquelle on met nos propres clés. Et ça s'appelle Skira.
Skira, ouais, c'est un. Alors, après, apparemment, avant, ça s'appelait Mini Perplex. Attends, j'arrive. Mini Perplex, ouais, c'est ça.
Ouais.
Donc, une sorte de mini Perplexity que l'on peut auto-héberger, mettre ses clés de modèle, OpenAI ou d'autres, et l'utiliser comme on veut. Donc, comme ça, tout reste chez soi. On utilise un serveur et on le met dessus. Donc, plutôt pratique. Et on peut même. Là, il y a une version en ligne qui est testable. Et on l'a testé juste avant l'épisode. Et c'est plutôt efficace, en fait, on a trouvé. Donc, il fait une agrégation de tout plein de sources. Et ensuite, derrière, il te sort tout un résumé. Donc, il est assez efficace.
Pertinent, parce que bon, on lui a dit quelle est la pertinence du podcast Double Slash. Il nous a sorti un pamphlet. Et moi, ce que je vais retenir surtout, c'est qu'en 2025, il reste une référence pour la news et les débats tech en France avec plus de 100 épisodes. Donc, si vous êtes développeur, bon. Un excellent ressource pour rester à jour. On ne peut qu'approuver ce modèle qui est, ma foi, très pertinent. Non, trêve de plaisanterie, mais c'est plutôt sympa. Et donc, à tester. En tout cas, si on veut faire un peu une sorte de croisement, de fusion entre de la recherche et de la génération, plutôt pas mal.
Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal pour installer ça dans une petite boîte ou des trucs comme ça, pour l'utiliser en interne. Et puis, c'était assez hallucinant. Enfin, je reviens sur le test qu'on a fait tout à l'heure, mais on s'est dit, au début, mais il est lent ce truc et tout. Et en fait, finalement, il était en train d'agréger les sources, en fait. On voyait les sources augmenter 30, 40. Et après, il nous a tout ressorti. Donc, non, il est. Ouais.
Et ce qui est hallucinant, c'est qu'il vient de manière totalement, de sa propre initiative. En fait, il en a conclu qu'on faisait un épisode tous les 15 jours, à peu près 45 minutes, une heure, à la fois de l'audio, mais aussi de YouTube. Petite présentation sur chaque personne, tout. Non, franchement, c'est vraiment propre, hyper intéressant. À tester, quoi. À tester si vous voulez pas utiliser Perplexity ou si le ticket d'entrée par user chez Perplexity est trop élevé, on peut une belle alternative open source. Allez, on bascule sur dans l'univers React avec la React Foundation. C'est quoi le concept de React Foundation ?
Le concept, c'est de. En fait, historiquement, le projet React était interne à Meta, Facebook Meta, puisque c'est eux qui l'ont créé, qui l'ont rendu open source à la base. Et petit à petit, au fil des années, le projet devient de plus en plus communautaire. En fait, il y a plus, au fur et à mesure des années, il n'y a plus. Comment dire ? Il n'y a pas que React, que Facebook qui code dessus, en fait. Il y a toute la communauté. Donc, ils ont souhaité le sortir de Meta. Et donc, ils ont créé la React Foundation qui va héberger. Donc, c'est sous Linux Foundation, je crois. et donc qui va héberger, donc qui sera responsable de React, du projet React. Et voilà, comme ça, c'est sorti de Meta, c'est un peu moins lié à ça. Et il y a une gouvernance qui permet de décider un petit peu. Donc la gouvernance, pour l'instant, c'est Seth Webster, qui était déjà un des développeurs à la tête de React chez Meta, et qui maintenant est à la tête de la fondation.
Mais et, il reste quand même payé par Meta ?
Ah, ça, je sais pas encore, mais...
Non, je suis taquin.
Après, il y a des sponsors, tout ça. Mais...
Bien sûr, non, je suis un peu provocateur, mais ce qui est sûr, c'est que si Meta finance encore à un haut pourcentage, il aura encore son mot à dire, et ce qui est normal. Mais au moins, on ne peut pas nier le fait qu'il y a un effort de fait sur cette volonté de sortir un petit peu cette gouvernance, et pour pas qu'elle soit trustée par des acteurs privés, même si quand même...
Ça reste le cas, si tu regardes la gouvernance en bas.
J'ai peur quand même que voilà, il y ait quand même des...
Microsoft, Vercel, Amazon, bon. Pour l'instant, ça reste quand même dans l'univers...
On va saluer quand même l'initiative. On va saluer l'initiative, c'est quand même pas mal. Non,
En tout cas, ça donne une vision sur la pérennité du projet. Voilà, on sait que ça. Voilà. Maintenant, c'est plus chez Meta. Si Meta, parce que si tu veux, il y avait toujours le risque un jour de dire que Meta décide de plus s'en occuper, de le mettre de côté. Et là, au moins, il est sorti de Meta et voilà, on est tranquille.
Même si on est quand même confiant sur la pérennité de React, on est d'accord.
Oui, vu l'utilisation, ouais, c'est sûr.
Yes. Allez, on bascule chez GitHub qui fait en fait un petit Octoverse. C'est quoi le Octoverse ?
C'est des stats sur tout ce qui se passe au niveau de GitHub, tout ça. Ils sortent ça tous les ans, je crois, l'Octoverse. Okay. C'est à peu près à la même date, je crois que c'est en octobre, ils le sortent, ou en novembre. Ouais, bah novembre, bah, cette année. Et à chaque fois, ils donnent plein de chiffres. Et moi, notamment, ce que j'ai noté, c'est qu'en août 2025, TypeScript est passé devant Python.
Voilà.
Dans le langage le plus utilisé.
Sur la plateforme. Le shift est fait, quoi.
Ouais, c'est bon. Voilà.
Ça y est.
Ouais. Pendant longtemps, Python était vraiment loin devant. Et c'est normal. Mais là, TypeScript, l'augmentation des projets sur TypeScript, et notamment même au niveau des projets IA, puisque c'est vrai que Python quand même domine sur tout ce qui est projet IA.
Historiquement, en fait, c'est quand même lié à un historique de data. En fait, tous les data scientists ou toute la gestion de grosses données, il y avait une grosse librairie, tout l'écosystème était très développé sur Python. Donc, naturellement, quand on parlait après de machine learning et toutes les évolutions IA, il y avait un historique de Python qui était en place. Mais aujourd'hui, tu dis que c'est en train de se combler et que TypeScript a bien rattrapé le retard. Enfin, si on pouvait parler de retard d'ailleurs.
Python, c'est parce qu'il est très bon pour tout ce qui est calcul, mathématiques, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il est très utilisé en machine learning. Mais oui, petit à petit, tous les projets IA qui naissent, il y a beaucoup de développeurs qui sont plus à l'aise sur TypeScript ou JavaScript, donc ils ont tendance à... On en parlera après, mais voilà, il y en a de plus en plus, quoi.
Donc, le shift est fait. Allez, on reste dans l'univers GitHub et avec un petit plugin où, je ne sais pas, est-ce que c'est affilié objectivement à GitHub ? Je ne sais pas. Par contre, on va apporter des utilitaires fonctionnels pour nos repos GitHub, c'est ça ?
Ouais, tu rajoutes, en fait, tu vas sur ton repo github.com/... moi, j'ai pris celui du podcast et tu rajoutes juste for devant GitHub. Sans point, juste forgithub.com, et ça te donne un panneau comme ça où il y a plein d'outils disponibles pour jouer avec ton repo, donc un IDE en ligne, tout ça. Et moi, ce qui m'avait fait marrer, en fait, j'ai fait le Codebase to Podcast. C'est celui qui est en haut à droite. Et en fait, quand tu vas dessus, il te génère un podcast qui est basé sur le code de ton repo. Et après, alors j'ai écouté vite fait, hein, mais après, il te parle de en quoi est fait le code. Donc, il parlait de Pinya, du store qui gérait avec Pinya, etc. Donc, t'as une personne qui parle et voilà, c'est un podcast direct. C'est marrant.
Excellent, excellent. Voilà. Auto-génération de code de contenu. Et limite, qu'est-ce qu'on se fait chier, Patrick ? pourquoi, enfin, tu vois, on va faire ça, on vient cloner nos voix et puis on balance là-dessus et puis terminé, c'est fait, quoi.
Non, je suis pas fan. Je t'avoue que je sais plus, je crois que c'est Jérôme Colombin là, qui fait les podcasts, je sais plus le nom de ton podcast. De temps en temps, il en sort généré avec, avec des voix, tout ça.
Ouais.
Franchement, je suis pas fan. Hein. J'aime pas trop écouter, c'est pas très agréable en fait. Après, ça va s'améliorer certainement, mais pour l'instant, c'est pas génial.
Ouais, je pense. Je pense que ça va vraiment s'améliorer dans le temps, ouais. Mais ok, donc tout ça, en fait, il y a plein de petits utilitaires qui est quand même, qui est quand même sympa, où on va pouvoir en fait automatiser des tâches qu'on à partir de notre repo de nos repos GitHub. Sympa. Ouais. For GitHub, forgithub.com et excellent. À tester. Allez, on bascule dans l'univers PHP avec la sortie de 8.5. Alors, c'est 8.5, c'est une sorte, c'est une mineure, si je me trompe pas. Oui. Donc, on n'est pas sur une solution majeure. Clairement, c'est quoi la 8.5 ça apporte
des nouveaux trucs, notamment le pipe operator, comme tu peux voir là sous tes yeux. Donc c'est une nouvelle façon de gérer. Je crois que ça remplace un switch, il me semble, ou je sais plus. C'est une nouvelle syntaxe qui est assez bizarre en fait, mais bon, ça existe dans d'autres langages a priori. Mais si tu descends, t'as un exemple normalement. Voilà. Non, un peu plus bas. Voilà, celui-là, tu vois. Et en fait, ça va te chaîner des fonctions, en fait, sur la string hello world. Et du coup, ça va te chaîner les fonctions pour avoir un résultat final. C'est assez bizarre, je trouve, l'écriture, mais oui, pourquoi pas. C'est...
Ouais, ok.
En fait, parce qu'en JavaScript, tu peux le faire chaîner des trucs, mais pas forcément en PHP. Voilà.
D'accord.
Parce que, okay. PHP, t'as pas le point, fonction, parenthèse, okay. Etc.
Alors, moi qui ne suis pas du tout familiarisé avec l'univers PHP, en fait, je comprenais pas le nouveau truc, tout. Mais en fait, historiquement, ce n'était pas possible en PHP. Et ouais, ce pipe opérateur nous permet de faire la même chose qu'on pouvait faire en JS. Ok, excellent.
Il y a plein de trucs quoi.
Ça reste une majeure. Array first, array last, c'est pas mal. Hein.
C'est ouais, pas mal. Mais tu vois, tu te dis, mais c'est dingue en fait que ça n'existait toujours pas. Et bon, voilà, ils comblent des manques en fait. Alors, il y avait toujours des façons de faire, hein, comme en JS d'ailleurs, il y a toujours des façons de faire différemment, mais voilà, quand c'est natif, c'est quand même plus sympa.
Bien sûr. Bien sûr, ce qui est fait ça t'évite d'entretenir toute ta panoplie ou ta bibliothèque de fonctions utilitaires qui palliaient à ça. Là, tu le fais en natif, c'est encore mieux. Excellent.
Donc, deux articles, tl.com qui ont sorti un, et après, il y a Laravel France qui a sorti aussi avec... Laravel Jutsu. Je ne sais pas si on l'appelle encore comme ça. Tu sais qu'on a...
Je ne sais pas du tout. Ludovic, quoi. Ouais.
Ouais. Excellent. Anciennement Laravel Jutsu. Je pense qu'il s'appelle plus comme ça maintenant. Ou peut-être.
C'est un pseudonyme, donc ça peut changer. Ouais, c'est pas gênant. Allez, on rebascule dans l'univers du JavaScript avec Bun qui devient en fait compatible nativement chez Vercel. Et donc, même si on pouvait déjà l'utiliser depuis un certain temps, il me semble que c'était sous bêta ou sur Red Flag, pas Red Flag, mais sur Flag Feature, on devait activer quelque chose. Là, c'est désormais complètement officiel et ça passe directement, c'est ça ?
Bah, disons que, regarde, là, tu vois, alors remonte légèrement, s'il te plaît. Non, un petit peu plus bas, il y avait marqué en fait que le Bun install était déjà dispo depuis 2023, c'est ce que je vois juste avant. Mais c'était pas c'était pas la runtime, il n'était pas dispo. Tu avais le install qui était dispo, mais pas la runtime a priori. Enfin, après tu l'as peut-être testé en bêta dernièrement, mais
ouais, moi j'ai tout tourné et ce que je vois aussi, c'est que maintenant en fait on a un accès à tout l'écosystème Bun. Et ça c'est plutôt plutôt intéressant parce que nativement en fait Bun a intégré plein de de SQL, S3, des cryptos, des choses comme ça pour hacher les passwords. Et c'était pas toujours pris en compte. Et là, je vois que tout est pris en compte nativement. Donc, c'est plutôt top. C'est bien. Ça met une compatibilité totale sur Vercel, au moins. Après, je sais pas si tu as des projets qui tournent en production avec Vercel ou pas, mais
non, j'ai plus rien chez Vercel.
Ouais, ok. Mais c'est plutôt sympa et ça amène une pérennité. On redit encore ce qu'on avait dit il y a très très longtemps, mais cette guéguerre un peu des runtime JS nous fait gagner nous en tant que développeurs, quoi. Et c'est les hébergeurs qui se mettent la guerre pour ça. Et au final, c'est quand même nous qui sommes les grands gagnants dans l'histoire, clairement.
Alors ouais, je reviens vite fait sur Vercel. Alors on fera peut-être un autre épisode là-dessus, on en parlera peut-être un jour. Mais personnellement, de plus en plus le temps passe et moins. Enfin, plus je me retire des services américains. Voilà.
Ok.
Et je privilégie l'Europe, voire la France, voire la Suisse, mais voilà.
Ok.
C'est un choix personnel.
Ouais, c'est un choix personnel. Mais c'est intéressant. On pourrait faire une émission de débat là-dessus sur en mode souveraineté numérique, Vercel et
ça,
tout.
Ouais. On pourrait faire ça.
Super intéressant. Carrément, moi, je suis méga chaud et je pense qu'on pourrait inviter.
Oui, parce qu'on a
monde.
Beaucoup d'acteurs en Europe, tout ça, qui sont aussi bons, voire des fois meilleurs. Et on a tendance à utiliser par facilité les services américains. Et donc, voilà. Mais il faut chercher un petit peu. Et il y a pas mal de choix, notamment en pro. Je sais que tu es dessus aussi, ProtonMail, etc. Donc,
oui, clairement. Clairement. Mais à suivre, on va en reparler,
ouais,
à Patrick.
On en reparlera, ouais.
Et dites-le nous dans les commentaires si vous êtes sensible à ce type de sujet-là, parce que ouais, ça prend de plus en plus aussi un peu partout. Allez, on déroule. Petit documentaire, si on veut passer, rester dans l'univers un peu du divertissement, mais rester quand même dans l'univers du dev. Petit documentaire sur Vite.
Oui, ouais, c'est ça. Comme on a eu les documentaires sur pas mal sur React, sur Vue, etc. Là, ils en ont fait un avec Evan New, évidemment, hein, puisque c'est lui le créateur. Et donc, ça parle de Vite, voilà, la genèse, etc. Pourquoi il l'a créé, comment il l'a créé, etc.
Excellent.
Anthony Fou.
Ouais, c'est toujours des documentaires qui sont assez faciles à voir, légers et qui restent dans l'univers de boulot, quoi. Donc faut-il encore aimer et s'intéresser un peu au sujet pour pouvoir regarder ce type de documentaire, mais c'est toujours sympa, ouais. Je trouve. On voit toute la genèse.
Ils ont changé de nom, par contre. Tu sais, c'était
Onipot. Avant, c'était Onipot, ouais.
Ouais, c'est ça. Maintenant, ils ont changé. C'est Cult Repo, un truc comme ça. Ils ont rebrandé le truc.
Mais le concept reste le même.
Ouais, c'est pareil, ouais. C'est clair.
Yes. Allez, dans un dernier épisode, on avait... En tout cas, dans un des derniers épisodes, on parlait de Better Oath. OK.
Ouais.
on avait parlé de Better Oath, donc la solution pour gérer ces authentifications de propre de l'héberger nous-mêmes, en tout cas de la self-hoster, de gérer nous-mêmes l'authentification en côté JS avec le côté modulaire. Si vous n'avez pas écouté l'épisode, je vous invite en tout cas à écouter. Et là, il y a une version Canary qui sort. Et qu'est-ce qu'elle amène, cette version Canary? Donc, les versions Canary, c'est des versions qui sont un petit peu en avance. Et donc, la future version, ça serait quoi?
Bah, je t'avoue que j'ai pas tout regardé, mais ce que j'avais noté surtout, c'était qu'on pouvait se passer de database avec cette future version quand tu te connectes avec des providers. Et du coup, tu n'as plus besoin de database, donc tu peux te passer. Donc voilà, et c'est en stateless, tu te connectes. Ouais. Alors après, c'est vraiment des cas particuliers, j'imagine, mais de ne pas avoir besoin de database, tout ça, et juste de se connecter via GitHub ou des trucs comme ça, mais voilà, ça sera faisable dans les prochaines versions.
Après, c'est aussi super facile parce que BetterHot, c'est facile à installer. Et si en plus, ouais. on n'a pas besoin de gérer une base de données, donc toutes les migrations, toutes les sessions, tout ça, si on n'utilise que des social providers, bah, objectivement, là, l'expérience d'authentification, elle est encore beaucoup plus simple à mettre en place, encore plus rapide, encore plus facile. Et donc, non, c'est super intéressant, super intéressant.
Ouais.
Ça en peut pallier à plein de solutions. Donc, non, c'est cool.
Non, le projet évolue. Je vois beaucoup de personnes enthousiastes sur le projet, donc ça fait plaisir. Et puis en plus,
j'en suis.
Dernier épisode.
Donc, j'en suis.
Donc, non, c'est gros projet, ouais, beau projet.
Top. Allez, on bascule. Alors, ça va pas te faire plaisir parce que c'est porté par Vercel, mais on est quand même obligé.
Ah non, mais j'ai rien contre eux. Hein, mais...
on est quand même obligé d'en parler d'une nouvelle librairie qui est sortie qui s'appelle Workflow. Et grâce à un petit mot-clé qu'on va utiliser qui s'appelle Use Workflow, on va pouvoir en fait chaîner plein d'actions. On va pouvoir répéter on va pouvoir gérer en fait le retry s'il y a eu un échec dans une des fonctions. Et en fait, c'est une sorte de processus. Et ça va, en fait, on va enchaîner l'exécution de différentes étapes dans un processus et si ce processus ne va pas au bout, en fait, on va être notifié, on va pouvoir rejouer les étapes qui ont échoué et tout ça. Et ça, en fait, avant à mettre en place, c'était un peu compliqué. Ça nécessitait vraiment de déployer une architecture un petit peu plus complexe. Et là, en fait, grâce à cette librairie qui vient en fait donner un niveau d'abstraction plus, bah, tout va être fait, on va dire, un peu sous le capot. Et on n'a pas à mettre en place nous-mêmes toute cette logique-là. Et moi, dans ma tête, ça fait juste... Pouah ! C'est juste ouf. Et je ne l'ai pas encore implémenté parce que je n'ai pas eu le temps.
Ouais.
C'est clairement quelque chose que je vais implémenter parce que c'est juste hyper intéressant, quoi.
Ouais, c'est... Alors, je t'avoue que je n'ai pas non plus creusé beaucoup sur le truc, mais j'ai vu qu'ils annoncent des workflows. Alors, ouais, ça te permet vraiment de faire des pipelines et des workflows. Et apparemment... il peut s'arrêter, par exemple. Alors, ils disent que ça peut, si tu as le serveur qui crash, ça peut être repris un mois après ou plusieurs semaines après, au même endroit, etc. Donc, ça, c'est un peu étonnant. Mais c'est...
Eh ben, en fait, ça ne l'est pas. En fait, parce que moi, j'ai dit, OK, c'est trop bien leur truc, mais comment ils font ? Et là, l'exemple est vraiment très... Exactement. L'exemple est très, très parlant. C'est OK, j'ai un workflow quand la personne en fait, s'inscrit sur mon service. Un truc classique. Bah, je vais créer l'utilisateur. Après, en fait, je vais générer un mail et je vais lui envoyer. Et je vais, par exemple, l'ajouter à ma newsletter ou des choses comme ça. Donc, je vais avoir différentes actions. Et en fait, si ça crache au milieu, eh ben, il va reprendre là où il est. Et là, je me dis, OK, mais normalement, en fait, si on veut mettre ça en place, il faut mettre un système de pipeline avec des queues, en fait, et chaque action est une queue à part entière. Et donc, je peux refaire mon retry, ainsi de suite, parce
ah ouais,
que
c'est ça, ouais.
Ouais, le truc classique. Et en fait, ce système de workflow, c'est la fusion entre une base de données et un clé valeur de queue, en fait, où à chaque étape, en fait, il va enregistrer dans une base en disant, OK, telle action, telle exécution, en fait, la dernière étape, c'était celle-ci, elle est valide. Et donc, c'est pour ça que si ça crache, ça va pouvoir reprendre exactement là où ça l'a laissé. Parce que ça vient en fait faire une abstraction de... En fait, c'est comme si tu avais un espèce de Redis et une DB qui enregistrait tout. Et en plus, ils viennent mettre de la télémétrie là-dessus. Donc, tu peux savoir combien de temps ça a mis. Et l'avantage aussi, c'est qu'ils annoncent en fait des pouvoirs de mettre des pauses. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, ton auto-répondeur, tu peux déjà en fait le câbler directement dans ton workflow de sign-up. C'est-à-dire, à jour 1, tu lui envoies un mail. À jour 4, tu lui envoies un mail. Et bien là, en fait, tu vas mettre un slip. Donc, ta fonction va s'arrêter pendant X temps et elle va reprendre au moment opportun. Tu vois le truc ?
Ouais, je vois le truc totalement, mais normalement, c'est des trucs que tu fais avec des queues, en fait. Tu fais ça avec des queues et des events, en fait. Parce que c'est vrai que quand tu... par exemple, pour le coup, là, sur l'exemple où tu vas à quelqu'un qui s'inscrit, normalement, c'est une mauvaise pratique de mettre l'envoi de l'email, tout ça, dans instantané, en fait. Tu vas, tu vas juste envoyer l'email via un event dans une queue et il va l'envoyer plus tard, dès qu'il est disponible. Oui. Du coup, voilà, normalement, tu fais comme ça, quoi. Ça te permet de faire plus simplement, c'est clair. Ouais.
Ouais, mais en fait, comment tu fais pour chaîner ? Parce que, tu vois, par exemple, si ton processus en fait est dégagé et complètement hors contexte, c'est-à-dire, ok, je vais envoyer une newsletter, mais je vais lui envoyer l'email de bienvenue. Mais s'il n'y a pas de corrélation, en fait, tu mets ça dans une queue, oui. Sauf que si tu crées ton user, la création de ton user a été un échec, en fait, tu ne vas pas l'ajouter en disant « bienvenue ». Il faut que tu attendes la validation que, oui, il a bien été créé. Et après, tu lui envoies un email de bienvenue. Et après, tu l'ajoutes à la newsletter sous couvert qu'il a dit oui à la newsletter. Mais en fait, il y a cette notion de chaînage. Donc en fait, c'est là où tu dis ok, on met une queue. D'accord. Sauf que si tu viens chaîner plusieurs actions, tu vas avoir plusieurs queues. Tu vas avoir. Et là, tout de suite, ça devient beaucoup plus complexe. Et grâce à ce système-là, waouh, moi quand j'ai vu ça, j'ai fait oh, non mais là c'est ouf. Comment ils font quoi ? Comment ils font ? Et j'ai creusé. En fait, c'est une librairie qui s'appelle Word. Alors c'est un peu bizarre. Tu dis ok, c'est quoi ce truc de Word ? Et en fait tout va en database quoi. Tout va en database. Et ils enregistrent toutes les actions et c'est pour ça qu'ils peuvent en fait rejouer ou exécuter le temps. Là on voit dans l'exemple visuel
days.
Exactement, là tu attends 5 jours et tu exécutes la suite. C'est juste extraordinaire. Ça c'est juste trop trop fort parce que t'as pas tout est géré
dans
code.
Une seule fonction.
Tu gères dans le code et t'as pas à mettre en place des pipes en termes d'architecture. Là il y a une extraction de l'architecture et de la complexité mais qui est juste hallucinante.
Mais du coup, attends, parce que c'est uniquement sur Vercel disponible ou peux l'utiliser
On y arrive.
Sur un node
Exactement, on y arrive.
J'ai vu qu'il y avait beaucoup de trucs qui étaient dispo, notamment Nuxt, Nitro, tout ça. Et puis c'est normal puisque maintenant ça fait partie de Vercel.
Exactement. Mais... donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, sur le déploiement, c'est Vercel ready tout de suite, Par contre, ils disent qu'ils sont en train de travailler sur les local world. Donc, en fait, c'est dans ton environnement local, pardon. Ça c'est bon. Tu peux l'exécuter sur ta machine parce que, en fait, ça va marcher. Tu vas exécuter sur ta machine. Par contre, si tu veux déployer dans ton propre world, comme ils disent, là, c'est encore un peu en expérimental.
Ouais, Mais non, c'est le problème habituel avec Vercel, quoi, qu'on a déjà sur Next.js, où évidemment, ça marche super bien sur Vercel, mais dès que tu veux le self-hoster, c'est plus compliqué, la gestion du cache, etc.
Après,
c'est normal, en même temps, c'est leur business. Ils essaient c'est un peu comme les banques, ils essaient de t'empêcher de partir, tu vois. Donc, du coup, ils te proposent des fonctionnalités qui ont que tu vas utiliser chez eux. Du coup, tu vas rester chez eux.
Mais tu peux pas non plus dire qu'ils font rien parce que, tu vois, là, on est dans un déploiement. Ok, tu es sur ta machine. Si tu veux tester ça, tu vas installer ce type de workflow, de workdata.
Ouais.
Tu es sur Vercel, bah, c'est out of the box. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, tu es dans un univers Postgres, donc par exemple sur ta machine, et bah, tu vas installer ça, tu vas configurer ton, la DB que tu as provisionnée pour ce workflow-là. Et tu vas mettre toutes les authentifications. En fait, il t'explique que tout marche. Après, je n'avoue ne pas avoir testé. Donc ça, je ne sais pas encore comment, si c'est facile à mettre en place. Mais en tout cas, ils ouvrent la porte à...
bon, a priori, ça marche, voilà, ça marche avec Postgres, ça marchera avec des fichiers aussi.
Oui.
Bon, OK. Si ça marche à l'extérieur, ça va.
On peut pas. Et en fait, c'est basé sur une librairie qui s'appelle pg-boss. Et en fait, qui a pour vocation de faire les queues, en fait, mais côté DB. Et donc, voilà, ils utilisent aussi les events de la base de données. Donc,
bah, en fait,
j'ai
tu vois,
pas
en,
envie... Ouais, vas-y.
Bah, en background, en fait, c'est exactement ce qu'on disait, les events, les queues, tout ça, sauf que ça se fait tout seul, t'as pas à le gérer, quoi.
Exactement, donc, oui, c'est exactement. Ouais. Et c'est là toute la puissance. Et donc, si c'est juste une histoire de config... Ok, peut-être que ça sera plus compliqué, j'en conviens, mais il semblerait que ça soit possible de d'héberger nous-mêmes ces workflows-là, quoi. Et là, en fait, on aurait le meilleur des mondes, donc peut-être qu'on va se prendre la tête à héberger ce Word, mais derrière, en fait, tout va être centralisé dans une seule welcome fonction avec l'exécution de tout le process. Et ça, en fait, c'est vachement plus simple. Parce que ça vient nous faire une abstraction de toutes ces queues qui s'imbriquent les unes dans les autres. Très compliqué. Très, très compliqué.
Ouais, pas mal. Non, mais franchement,
Moi, je suis méga hypé par ce truc parce que je vois un potentiel direct. Hein, mais vraiment.
Non, c'est très bien parce que ça te simplifie. Tu regroupes tout le code dans une seule fonction. Après, en plus, si ça fonctionne à l'extérieur de Vercel, c'est cool. Notamment, ça marche déjà sur Nitro, sur Nuxt, sur Next. Donc,
et tu peux en plus brancher des hooks dans l'exécution de tes steps ou de tes flows. Non, franchement, ça me paraît très, 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 très puissant ce truc. Très, très puissant. Moi, en tout cas, je vais garder un œil dessus, sûr, et je vais l'implémenter parce que moi, j'ai des clients qui sont sur Vercel en pro. Donc, bon, j'ai accès, je vais tester, quoi, clairement.
D'accord. Très bien.
Et on mettra aussi en exemple à côté dans la description du podcast, on mettra aussi le lien avec un repo où il y a tous les exemples. Et pour le coup, c'est assez intéressant de voir comment ils ont implémenté ça avec différents use cases. C'est plutôt pas mal.
Ouais, non, mais c'est pas mal. C'est vrai que. Tu vois, par exemple bête, mais un système de location d'appartement ou de trucs comme ça, où tu vas lui dire, bah, 2 jours avant, tu vas lui envoyer un rappel, le jour où il doit prendre les clés, bah, tu lui renvoies un truc, et tout ça géré par des slips. Voilà. Ouais, c'est pas mal.
Eh ben oui.
Oui.
Allez, on bascule dans l'univers de Composer et de nos meilleurs outils pour nous, développeurs. Je pense que ça reste quand même aujourd'hui les modèles. Et aujourd'hui, Cursor, en tout cas le 29 octobre, Cursor a lancé son propre modèle qu'il a appelé Composer. Rien à voir avec l'utilitaire PHP.
Rien à voir.
Rien à voir.
Non. Rien à voir. Non, ouais, alors c'est toi qui es. Toi, tu es plutôt utilisateur de Cursor, alors je sais pas.
Je vais nous en parler. Alors, je vais pas pouvoir en fait voir les benchmarks et pouvoir tester si c'est pertinent ou pas. Je pense qu'il faut donner plus de temps. Et même si très vite, on va se rendre compte qu'il y a une sorte de hate. Il y a de hate sur X, tout de suite, ça s'enflamme en disant que c'est pas pertinent, que c'est pas bien, c'est pas. Oui, il faut aussi laisser du temps et n'oublions pas quand même qu'on a des outils à notre disposition qui sont quand même juste ouf pour des alors, prix symboliques dérisoires. Ouais. Et donc, je trouve qu'on a le lynchage d'outils informatiques pour nous, développeurs, assez facile et surtout qu'on est... pour faire court, on n'est jamais content, quoi. Tu vois, il y a toujours c'est trop machin, c'est trop cher. Ouais, non, mais c'est pas cher par rapport à ce que ça nous apporte. Ou c'est pas gratuit. Ouais, mais à un moment donné, faut y arrêter aussi ça. Donc ouais, je trouve un peu les critiques un petit peu dures. Je trouve que ça a le mérite d'exister. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça va évoluer? Je sais pas. On ne peut pas lâcher le fait que Cursor veut essayer de sortir son propre modèle pour construire son IDE et en fait enrichir son IDE. Ça se tient, c'est logique. Ça a été entraîné pour que du code. Est-ce que c'est une réponse marketing, tu vois ? Est-ce que c'est une réponse marketing à d'autres, à Codex ? Voilà. On va pas se mentir.
Ils annoncent, ils annoncent un modèle IA interne. Alors, j'ai fait un résumé. ils annoncent un modèle IA interne optimisé pour la génération et la compréhension du code avec gestion de contexte large et respect des conventions du projet. Ils disent qu'il est 4 fois plus rapide et il a un apprentissage renforcé, calibré pour les workflows agentiels, agentiques. Voilà. Donc, il est vraiment super optimisé. Je pense qu'il y a aussi une notion de coût aussi. Peut-être que ça leur coûte moins cher de faire tourner leur propre modèle que de passer par des providers qui devaient leur coûter une fortune. Et notamment, je sais que j'entends beaucoup parler de limitation de tokens avec Claude, etc. Les gens sont arrivent très vite à la limite, tu vois. Et on en parlera après, d'ailleurs.
Ouais.
Mais alors après, dans ce Cursor V2, il y a aussi une interface agent first, a priori, qui privilégie maintenant les interactions avec l'agent plutôt que par fichier, etc. Donc voilà, on peut leur confier des tâches complexes, multi-agents et planification parallèle. Il peut travailler en parallèle ton agent avec un autre, etc. Il y a un navigateur intégré.
Voilà, ouais, navigateur alors, interne. Ouais, après ça, c'est les nouvelles fonctionnalités de Cursor.
Ouais.
Justement, ouais, il y a un navigateur intégré et donc il va plus facilement en fait identifier les erreurs et faire de la remontée d'erreurs. On en avait parlé et donc ça sera beaucoup plus intéressant pour lui, ouais, clairement.
Bah là, on a aussi après moi sur VS Code, j'ai une liaison avec le browser où il est capable d'avoir les erreurs console.
Et ça change beaucoup. Hein.
Ça change, ouais, beaucoup ça change de tout. Ouais. Tu lui dis, attends, regarde les erreurs. Il dit, ah, ok, c'est ça, machin. Il y a aussi un mode vocal. Je sais que toi, tu dois être fan de ça.
Ouais, mais on va en reparler un petit peu plus tard parce qu'on a un petit tool, ce qui est plutôt sympa là-dessus.
Ouais, ouais. Possible de dicter les prompts du code vocalement. Tu peux écrire ton code en dictant. J'avais entendu un mec aussi l'autre jour sur X qui disait qu'il codait en parlant, lui. Bah, c'est un peu bizarre, mais bon.
Ouais,
Vois mal accolade X égale, tu vois, c'est trop bizarre.
Ouais, après, je pense qu'il fait que des agents. En fait, c'est des agents qui codent pour lui. Par contre, il doit envoyer ses instructions, je pense, à l'oral, ouais. Ouais. Pas super surpris.
Cursor évolue. Et je sais que, par contre, toi, tu l'utilises, mais ils se plaignent beaucoup aussi des mises à jour. Apparemment, il y en a tout le temps, quoi, des updates de Cursor. À chaque fois que tu le démarres, c'est une update.
Oui, so what? Non, mais enfin, c'est quoi le problème? C'est, en fait, j'ai une notification en bas à gauche qui me dit Cursor doit être mis à jour. OK, je clique, ça s'éteint, ça se rallume et je code. Ça me prend 5 secondes, j'ai la dernière version avec les dernières features. So what? Enfin, je veux dire,
c'est ce qui devrait pas regrouper un peu plus les features, tu vois, et faire des mises à jour un peu moins fréquentes et plutôt envoyer par gros paquet plutôt que tous les jours ou deux fois par jour, tu vois.
Ok. Toi, tu fais une release par mois ou tu déploies
à 3 mois même.
Ok. Bon, bah, tu vois. Non, mais en fait, si tu suis la logique, de commit ou tu vois d'intégration continue, de déploiement continu, bah tu fais une release tous les deux jours. What's wrong with that?
Enfin, ça me gêne pas.
Mais attends, ça prend 5 secondes, les gars. C'est quoi le problème? tu vois, ça me fait halluciner, quoi. Moi, je comprends pas que les gens puissent s'offusquer de ça, quoi. T'as un logiciel à jour et potentiellement, il a corrigé des bugs. Tu vois, t'avais un bug il y a 4 jours, il était corrigé. tu l'as.
J'avais l'impression qu'à une époque, alors je répète, je n'utilise pas Cursor, mais j'avais l'impression qu'à une époque, il y avait des mises à jour et des fois, ça introduisait des bugs, en fait, et qui étaient corrigés dans la mise à jour suivante, en fait. Est-ce que ça allait un peu trop vite à un moment donné?
Est-ce que ça va trop vite?
Je fais un peu le journaliste
ouais,
de FM.
tu fais surtout le hater, quoi. Moi, je préfère un logiciel qui se met à jour régulièrement.
Okay.
Plus régulièrement, potentiellement, il va corriger plus de bugs qu'il va en amener. Tu vois, parce que sinon, en fait, ça veut dire qu'à chaque release, tu introduis plus de bugs. Mec, non, c'est pas possible. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, non, j'ai du mal à comprendre. Mais une fois de plus, c'est des haters.
les devs sont jamais contents.
Mais exactement. Les mecs, ils sont jamais contents.
Les clients aussi.
Et là, tu fais, mais mec, t'as une release, ça te prend 5 secondes. Quoi. Ta machine, elle démarre. Et en plus, t'as pas envie de faire ta mise à jour pour X raisons. Ben, tu la fais pas. Et puis, c'est pas grave, tu vois.
Tiens, j'ai une question. Est-ce que tu fais partie de. Au niveau dev, est-ce que tu es plutôt à laisser ton éditeur ouvert tout le temps avec le projet ou tu le fermes tous les soirs et tu le réouvres le lendemain? T'es dans quel camp, toi?
Alors, moi, je suis dans le camp où, en fait, j'ai fait un environnement. En fait, j'ai un environnement par client. C'est-à-dire, j'ai une fonction avec un raccourci sur mon Stream Deck, là, le truc qu'on utilise pour le podcast. En fait, j'ai configuré un truc pour le dev. Et en fait, j'appuie sur un bouton et je suis dans le contexte de mon client, Soruz, ou un autre client, dont mon client X, mon client A, mon client B. Et en fait, quand j'appuie sur A, je vais avoir mon terminal qui va s'ouvrir avec le code. Je vais avoir mon cursor qui va s'ouvrir avec le code. Je vais avoir ma database qui va s'ouvrir avec la database de dev et ainsi de suite. Donc en fait, quand je switch d'un client à l'autre, je ferme tout et j'ouvre tout.
D'accord.
Est-ce que j'ai répondu? Et j'ai aussi la disposition des fenêtres qui est enregistrée.
Non, t'as été très loin, toi.
Ouais, je sais pas.
Donc tu fermes le truc et,
et tu
réouvres en un coup de bouton sur Stream Deck.
Exactement. Exactement, parce que je trouve que c'est sympa et en fait, ouais, voilà. Et
surtout, que tu me fasses une petite vidéo alors pour me faire voir comment tu as configuré ça, quoi.
C'est pas compliqué.
Ouais, mais vite fait, une vidéo de 10 minutes, tu vois, pour nous dire comment tu as configuré ton truc. Ça peut être intéressant.
Ouais, ouais. Et j'ai des tools qui vont bien pour ça, mais ça marche plutôt bien et je trouve que c'est important. En tout cas, moi, ça m'aide à être bien focus et être dans le contexte du client tout de suite.
D'accord. Ok.
Allez, on reste ou on revient peut-être dans l'univers IA où on sait que une des librairies en fait majeures aujourd'hui, c'est Vercel AI SDK, qui est en fait un SDK qui va interagir avec n'importe quel modèle. Néanmoins, il existe encore des manques et c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui est venu en fait étendre et améliorer, comme il le dit, ce SDK de Vercel AI pour en fait lui donner le surbooster avec d'autres fonctionnalités.
Ouais, bah l'AI SDK de Vercel, en fait, c'est un truc de base où ça te permet en fait de communiquer. En fait, c'est la base pour communiquer avec différents providers avec la même API. Que tu sois sur Claude, OpenAI ou n'importe quoi, Mistral, tout ça, tu vas juste changer le provider, mais après les fonctions seront toutes les mêmes, les réponses, etc. Tout est normé, TypeScript, etc. Donc c'est vraiment un SDK de base. Et ensuite, évidemment, ça ne prend pas en compte tout ce qui est mémoire, etc., les toolings, les MCP, enfin tout ce que tu veux. Donc on a déjà, on en reparlera juste après, mais on a déjà Mastra qui existe, mais là c'est un gars qui a créé ça pour sa boîte. Donc il bosse dans une boîte, il a créé tout un système pour faire un agent. En fait, l'idée, c'était de faire un agent pour l'intégrer. Et puis, du coup, il a, petit à petit, il a créé carrément un framework, presque. Un SDK beaucoup plus... Il a étendu le truc de base pour gérer tout ce qui est mémoire, ce qui est très important, le cache, tout ce qui va autour de ça pour créer un agent soi-même. Quoi. Donc, il l'a rendu open source. Et c'est plutôt cool. Ouais. Mais on est très proche de Mastra, hein, je répète. On est vraiment dans un... Donc, Voilà. Et il avait fait un petit, des petits tweets pour expliquer pourquoi il l'avait fait, ce que ça incluait. Et puis, tu vois, les agents, memory, artifacts, DevTools, store, cache. Donc, il sortait en V1. Alors, pour l'instant, la V1 n'est pas publiée, il me semble. Mais, et ensuite, après, il expliquait voilà, qu'il avait, il devait faire pour son Midday. Voilà, sa boîte, c'est Midday. Il devait faire un business assistant pour Midday. Et puis, il a commencé à coder le truc et tout. Et puis, finalement, il l'a rendu open source quand c'était fini.
Voilà. Trop bien. Bah, c'est cool, hein. Bravo, c'est, ouais. C'est mec, c'est top, hein. C'est vraiment.
Bah ouais, il aurait pu le garder très, pour très lui, et puis non, il le partage, donc c'est bien.
Mm. Ouais, clairement. Tu parlais tout à l'heure de Mastra, ça y est, ils sortent en version officielle, en V1 bêta. Alors non, c'est pas officiel, pardon, c'est
presque,
en bêta.
On y est presque. On y est...
Mais on est très très proche.
Mais pas loin.
Donc là pour le coup, c'est pas un mec, c'est pas un projet qui a été incubé en interne, c'est vraiment une boîte qui s'est montée là-dessus et
ouais,
c'est
autour de
leur
ça,
business
ouais.
Quoi. Eux c'est
ouais, c'est leur business.
On crée en fait des agents spécifiques et on vous donne en fait tout le tooling qui va bien pour pouvoir faire des agents production ready avec toute l'expérience et toutes les ressources qui vont bien, donc le cloud, le workflow, l'observabilité, les rags, les multi-agents, les multi-connexions, stateful, stateless, tout ça. Donc beaucoup plus chaîné, enfin beaucoup plus puissant, beaucoup plus élaboré, je pense.
Oui.
Beaucoup plus de maturité. Il y a une équipe solide derrière, même si c'est l'équipe de.
Ah, ça fait toujours flipper ça, mais.
Non. En fait, c'est quoi, moi, j'avais peur, j'ai dit, OK, est-ce que je me mets là-dessus ou pas? Et en fait, j'ai regardé, c'est juste un mec de Gatsby, en fait. C'est juste un mec de Gatsby, c'est pas
oui,
toute
c'est
l'équipe.
Un des composants. Ouais,
tu vois, donc c'est sûr. Pas toute l'équipe et ça se trouve lui, enfin tu vois, on connaît pas l'historique vraiment.
Ouais, mais tu vois, aux States, les gars ils créent, enfin tu sais comment ça marche quoi, ils créent des frameworks, ils créent des trucs pour les vendre en fait principalement et tu sais pas à qui ça va être vendu. Là. Et quand c'est Netlify, eh ben le truc il disparaît quoi. Merci pour Gatsby quoi. Donc ils ont repris. Gatsby, et le truc a disparu, quoi. Donc, même ce qu'ils avaient repris, le hub, là, qu'ils avaient repris de Gatsby, qu'ils avaient créé, on ne sait pas ce que c'est devenu, quoi. Donc,
bah pour l'instant, rien.
C'est dommage. Ouais, voilà. Donc, c'est pas impossible qu'un jour Mastra soit repris et puis disparaisse, hein. Mais bon, après, on n'en sait rien du tout. Donc, ça peut continuer. En tout cas, c'est une équipe qui bosse dessus depuis un peu plus d'un an, je crois. Et donc, la V1, et c'est cool parce que ça permet d'avoir enfin un code stable qui risque de moins changer, en tout cas au niveau de la V1, puisque là pour l'instant ils avaient tendance à faire à casser les fonctions, tout ça, ils ont beaucoup évolué, donc là on arrive à un outil qui commence à être assez stable, qui permet de créer, en fait c'est l'équivalent d'un outil Python pour créer tout ce qui est agent, MCP, etc., faire du chunk, faire du mettre dans une base de données comment ça s'appelle ?
Vectoriel.
Vectoriel, ouais. Voilà, il y a vraiment tous les outils, gérer la mémoire, gérer tout. Donc, le truc est vraiment complet. Comment ils vont gagner de l'argent ? Avec le cloud, évidemment, puisqu'ils vont servir, ils vont proposer un système de cloud, tu pourras héberger ton agent, et après, voilà. Donc, c'est là-dessus qu'ils vont gagner de l'argent. Ils sont en train de développer aussi... Alors, il y a beaucoup de boîtes en ce moment qui internent... Enfin, comment dire ? Notamment, tu vois, des boîtes françaises qui ont des systèmes en interne pour des chatbots, etc., pour répondre à des questions pour les utilisateurs, tout ça. Et ils internalisent ça, ils itèrent, en fait, ils améliorent les prompts, etc. Et tu vois qu'il y a pas mal de personnes qui se mettent dessus. Notamment, j'ai vu qu'il y avait des gens aussi qui par exemple, il y a une boîte, je sais plus laquelle, où ils avaient des gens qui étaient au service client. Tu vois, ils répondent à des mails toute la journée.
Ouais.
Et qu'ils ont déplacé pour les mettre au niveau de leur équipe IA. Parce que c'est des gens qui savaient comment améliorer le prompt, ce qu'ils devaient répondre, qui étaient capables d'évaluer en fait si les réponses étaient bonnes ou pas, du RAG, etc., du chatbot.
Ouais.
Du coup, tu vois, on a des gens qui se sont retrouvés de service client à équipe IA. Donc déjà, monté en grade, hein, vachement plus intéressant. Et tu vois, donc on peut trouver des compétences vraiment au-delà de des devs et tout ça. Donc super intéressant. Et donc eux, en fait, Mastra, pourquoi je parle de ça, c'est que Mastra, ils sont en train de faire un système dans le cloud aussi, pareil, où on aura un système comme ça pour partager en équipe et améliorer les prompts, etc. Et tout le monde pourra le faire, en fait.
Après, le reinforcement, c'est aujourd'hui, c'est le cœur du métier. Enfin, c'est le cœur du business. Je pense que tous les modèles, en fait, ont été poncés. Ils ont aspiré, je ne sais pas combien de fois, le web. Et donc, ils ont aspiré tous les bouquins. À un moment donné, les modèles, en fait, ils savent déjà tout. Par contre, ce qu'ils n'ont pas, c'est l'expertise. C'est l'expertise, la réalité du terrain, en fait, elle n'est pas toujours réelle. Entre la théorie et la pratique, il y a souvent un gap. Et donc, la personne qui est au service client depuis des années, en fait, elle sait comment tourner, elle sait comment aller récupérer les informations. Et donc, en fait, sa vraie valeur ajoutée, elle est là-dessus. Et donc, en fait, ils viennent entraîner ou surentraîner, en fait, les modèles pour les rendre plus spécifiques avec une expertise métier. Et ils font ça, en fait, pour des cas ultra, ultra, ultra précis, des chimistes experts dans tel sujet. Et ben, en fait, ils vont venir renforcer le modèle. Et demain, en fait, le modèle sera beaucoup plus malin. Et donc, Mastra, en fait, s'inscrit aussi et donne le tooling pour faire ce genre de système.
Ils sont vraiment dans les bons outils. Mais c'est vrai que toutes les boîtes essaient de faire de l'IA en ce moment avec des chatbots, etc. Et clairement, si tu n'intègres pas des personnes qui connaissent les questions qui sont posées, qui savent améliorer les réponses, améliorer le contexte, etc. Parce qu'en fait, il ne suffit pas de prendre le contexte que tu as sur le site pour que le chatbot réponde correctement. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, c'est vrai que les équipes gagnent à intégrer des personnes qui savent ce qui gérer les services clients et tout ça. Pour en revenir à Mastra, sinon la V1, il y a eu un nouveau logo, waouh, super, ils ont changé le logo. Et puis sinon, ils ont fait une conf la semaine dernière qui était un petit peu catastrophique au début puisque la conf plantait, etc., le lien a changé, etc. Mais conf qui dure assez longtemps, où il y a plusieurs personnes qui interviennent pour parler des agents, etc., comment construire des chatbots, etc. Donc, c'est vachement intéressant. Si ça vous intéresse, sur YouTube, il y a toutes les vidéos disponibles.
Et toutes ces vidéos sont évidemment disponibles dans la description de l'épisode. Plutôt intéressant.
TypeScript, yes. AI Conf. Tu vois, TypeScript encore.
Du TypeScript encore, exactement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Exact.
Ouais. Et non pas du Python.
Allez, on reste sur une partie un petit peu plus tooling où là, on va présenter une librairie qui s'appelle Archetype et qui va nous permettre en fait de quoi ? C'est un mélange de regex avec des types. Qu'est-ce que ça fait ?
En fait, Arc regex, tu vas utiliser la fonction pour créer une regex classique, hein, pour sortir des éléments d'une chaîne de caractères. Et en fait, c'est capable de te sortir ça va te typer la regex et tu vas avoir un typage de ce qui va sortir de la regex, tout simplement.
Ok.
Donc plutôt pratique.
Ce qui t'évite de mettre des ENI partout.
Ah, mais de toute façon, normalement, tu peux pas mettre de ENI avec ta config, non? J'espère.
Non, mais en tout cas, sur des regex un peu poussés, en fait, tu mettais OK, c'est une string, mais si tu voulais en fait apporter quelque chose d'un petit peu plus complexe et un petit peu plus subtil, c'était compliqué. Mais en tout cas, grâce à cette librairie, tu vas pouvoir en fait typer tes regex.
Ouais, c'est ça. Après, la librairie Archetype, c'est un système pour un peu la ZOD, hein, pour faire le typage, etc.
Ok.
Donc, ça fait partie de leurs outils. Pas mal.
De validation. Yes. Allez, on rebascule dans l'univers PHP.
Allez, dans le dev un peu. Ouais.
Dans l'univers PHP, si vous êtes nouveau sur le podcast, vous n'avez pas connu l'époque où on était des fervents ambassadeurs et on le reste des sites statiques avec toute la Jamstack. Mais Hyde PHP, qui est un générateur de sites statiques basé sur PHP Laravel, vient de sortir en V2.
C'est ça, une V2, donc Hyde PHP qui est un générateur statique basé sur Laravel, il y a du Tailwind et ça gère le Markdown et tout ça, donc c'est plutôt complet et ça marche bien et donc du coup tu peux l'étendre avec toutes les fonctionnalités de Laravel, etc. Il est cool.
Nice. Et Static is the new dynamic, on est d'accord. Et je vous rappelle.
C'est toujours top. Hein.
Bah oui.
Et je vous rappelle. Le site du podcast est sur. Et voilà.
Exactement. Tu m'enlèves les mots de la bouche, évidemment. Mais le site du podcast est complètement statique. Donc, top. Top, top. Donc, il n'y a plus d'excuses pour faire entre Hyde, PHP, Astro, Nuxt et tout l'écosystème. Ouais, aujourd'hui, le statique est devenu un mode d'export à part entière. On ne va pas vous redire que ça ne sert à rien de faire tourner des serveurs s'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de mettre du JavaScript quand il n'y en a pas besoin. Et bah, vous mettez tout en statique et vous optimisez grandement les performances de votre site internet. Sans parler de la sécurité, évidemment.
Ouais.
Tout est dit. Tout est dit. Faites du statique, les gars. Faites du statique. Allez, on reste dans l'univers PHP. Composer.
Le NPM de PHP.
Exactement.
Si je peux dire comme ça.
Qui vient.
Donc, version 2.9. Ouais, 2.9 et notamment, je l'ai noté parce qu'il y a une nouveauté, c'est l'automatic security blocking. En gros, on en parlait encore dans les épisodes précédents par rapport au NPM, au file et tout ça de package. On retrouve sur Composer à peu près le même système où ça va bloquer automatiquement les packages qui sont identifiés comme problématiques. Donc, ils vont pas te l'installer. En fait, ça va pas te l'installer, donc c'est pas mal. Voilà. Et tu peux aussi, tu vois, en option, c'est marqué juste là, tu peux bloquer les packages abandonnés aussi, éventuellement. Donc, c'est cool.
Sécurité, sécurité, sécurité.
Ouais, important.
Trop bien. Trop bien. Allez, pareil, toujours de sécurité en termes de mise à jour. Si vous êtes développeur sur macOS, en tout cas, il y a de fortes chances que vous ayez des Homebrew, ce gestionnaire un peu d'applicatif qui vient d'être mis à jour en version 5 et qui prend en compte de manière officielle et définitive la dernière version de macOS. C'est un peu inodore, incolore, mais en termes de sécurité, c'est quand même important.
T'as migré, toi ?
Pas encore.
Ah, moi non plus. J'attends toujours plusieurs mois avant de migrer, moi.
Alors, plusieurs mois, non, parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a toujours un décalage entre Homebrew et la version de macOS. Homebrew, en fait, prend vraiment du temps pour mettre à jour sa version compatible complètement avec la dernière version de macOS. Et quand eux, ils le font, souvent, moi, je le fais. Mais ça ne se fait pas tout de suite, en fait. Donc, il y a déjà un gros laps de temps. Et donc, je suis assez confiant sur les mises à jour. J'ai arrêté de mettre à jour macOS tout de suite à la sortie. Parce que ça posait problème. Parce que tout l'écosystème Homebrew n'était pas prêt.
Ouais, ouais.
Et donc, ça pétait dans tous les sens. Donc, maintenant que je fais ça, j'attends que la version officielle de Homebrew le soit. Et dans la majorité des cas, en fait, ça passe. C'est très rare. Sur les dernières migrations, j'avais plus du tout de problème. Donc, je vais le faire.
Moi, le plus gros problème, c'est quand on est passé sur M1. Là, c'était problématique.
Ouais.
Sur ARM. Donc,
exactement.
Mais sinon, depuis, ça va. Quoi.
Beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide. Ouais, clairement. Clairement. Allez, on commence à se faire vieux, mais il y a quasiment un an, en fait, pratiquement un an, Anthropic, en fait, introduisait le concept de MCP. Ça fait déjà un an, quoi.
Ouais, ça fait un an, et c'est vrai que, au début, ça n'a pas pris des masses. Jusqu'à ce que, je ne sais pas ce qui s'est passé, l'étincelle prenne et là, c'est une explosion MCP dans tous les sens. On en a de partout. ça semble être le protocole idéal pour tout, en fait. Donc voilà, et ça fait qu'un an, c'est assez récent. Et pourtant, on en a déjà partout, dans nos éditeurs, dans nos agents, dans partout. Donc c'est cool. Donc ça fait pour fêter les un an, il y avait Hugging Face qui a fait un concours, je crois, pour le premier anniversaire, où il donnait des cadeaux, machin, tout ça. Voilà, avec
plutôt plus
qu'il y avait comme cadeau. Ouais, il y a eu des cash-money.
C'est plutôt sympa. Après, ce qui est sûr, c'est que le MCP, une fois qu'on a codé notre MCP, en fait, il va interagir avec notre service, mais c'est quand même beaucoup plus facile à faire évoluer qu'une API.
Oui, mais c'est hyper simple, en fait, de faire un serveur MCP. Hein.
Donc,
clairement.
C'est beaucoup plus intéressant, quoi. Ouais, et justement, de faire un serveur MCP, petite formation de comment créer son propre MCP directement dans Hugging Face. En fait, ils viennent... C'est quoi? C'est un article?
C'est dans la, non, c'est dans une la course, section. C'est une formation avec plusieurs étapes, tout ça. Ils t'expliquent comment créer une application MCP, tout ça. Donc, c'est vraiment... De toute façon, alors... si vous êtes jamais allé sur les formations Hugging Face, il y en a vraiment plein sur huggingface.co/learn et t'as plein de trucs en fait. Et tout est gratuit et tu peux apprendre plein de choses. Donc avant de payer une formation d'un gourou YouTube, allez plutôt sur Hugging Face, c'est gratuit et c'est intéressant.
Excellent.
Voilà.
Top. Ouais, pour créer son propre MCP. Et il y a un autre article qui est sorti aussi sur l'équipe de Nuxt, justement, ouais. Où ils expliquent comment ils ont créé leur MCP, comment ils l'ont implémenté, le MCP serveur pour Nuxt, quoi.
Ouais, pour la doc Nuxt et puis pour la doc Nuxt UI. Donc, ils expliquent comment ils l'ont fait avec toutes les étapes, tout ça, le code. Donc, c'est super intéressant. Et à la fin, ils t'expliquent comment toi, tu peux créer ton propre MCP. Du coup, c'est pas mal. Et c'est
inspirant.
Intéressant. Et du coup, ça me donne des idées pour le site du podcast.
très inspirant ouais. Tout ça. Donc, top.
Donc, on voit que c'est pas très compliqué.
Non, c'est plus accessible qu'on ne le pense, en fait, je pense.
Bah oui, carrément. Ouais. Mais surtout avec Nitro et tout ça qui te gère le serveur tout facilement. Donc, non, c'est cool. Et t'as vu, c'est Nuxt Content en plus. Hein. Bah, je te coupe, ça fait deux fois que je te coupe.
Aucun problème. Ouais. Dernière aussi, un autre article qui est sorti où justement, riche de cette expérience de un an de MCP, Anthropic en fait vient aussi revenir sur les agents et fait un énorme article sur les MCP où comment on peut interagir avec les agents et pourquoi c'est intéressant de faire des MCP. Parce qu'on va optimiser les contextes et on va optimiser en fait la consommation des tokens pour faire court. Et en fait, c'est un article un petit peu poussé. Donc, si vous êtes débutant en MCP ou vous n'avez pas super familiarisé avec le contexte de MCP, allez voir le premier article qui date de un an. Comprenez le système et après, vous pourrez aller voir celui-ci qui est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus spécifique. Mais en clair, il nous explique en fait comment les agents en fait peuvent optimiser le contexte si c'est bien fait et comment on peut en fait via les MCP optimiser la consommation de tokens et donc moins d'énergie, moins de thunes aussi à la fin du mois et on grille moins des tokens pour rien parce qu'en fait on a fait les choses correctement et donc c'est un peu des best practices et des guidelines plutôt intéressantes.
Ouais, notamment. Ouais, tu vois, on en parlait sur Cursor justement, des gens qui se plaignent des tokens limités sur Claude notamment, mais c'est certainement parce que c'est mal réglé, etc. Parce qu'en fait, dans cet article, ils expliquent que c'est les outils en fait, qui surchargent le contexte en fait, et qui font qu'il y a plus de tokens consommés, et que les outils, voilà, c'est vraiment les outils en fait, donc il faut bien gérer ces outils.
Exactement, mais en fait, c'est un truc tout con. C'est le développeur, ça va être méchant ce que je veux dire, mais le développeur de base, il a dit ouais, putain, les MCP c'est trop cool, ouais, les MCP et tout, c'est la révolution, c'est trop bien. Et en fait, il a branché tous ses MCP, mais tout. Ouais. Donc c'est-à-dire, il a Stripe, parce qu'il a utilisé Stripe, et en fait, il les laisse ouverts. Il les laisse ouverts à chaque requête. Et donc, en fait, chaque MCP va bouffer un slot de token. Donc, à la fin, en fait, il lui reste beaucoup moins de contexte. Donc, un truc de base, voyez ça comme des extensions dans VS Code ou que sais-je. Si vous n'utilisez pas l'extension dans ce projet-là, désactivez-la. Et en fait, le MCP va faire exactement la même chose. Donc, si vous n'utilisez pas Stripe dans votre projet, ne mettez pas le MCP Stripe activé. Ça ne sert strictement à rien. Donc, réduisez au minimum le nombre de MCP que vous utilisez ou à minima les MCP qui ont de la valeur pour votre agent si vous promptez. Mais sinon, c'est complètement débile. Et en fait, le gros problème aussi, c'est que les gens ne savent pas utiliser les agents. Et en fait, ils ouvrent un agent. Et pour eux, tu disais, ils vont ouvrir une fenêtre de VS Code. Et là, ils vont ouvrir un agent. Ils vont tout mettre dedans. Et en fait, ça rajoute du contexte. Et à la fin, c'est complètement débile. Et ça va croquer tous tes tokens. Et ça va être complètement débile parce que ça va chercher partout plein d'informations. Non, il faut être ultra spécifique. Et si je n'utilise pas le MCP de Nuxt parce que mon serveur est sur... ou je bosse sur un serveur Astro, je débranche mon MCP Nuxt. Je n'utilise pas... Et ça va me faire gagner beaucoup de tokens et donc du contexte et donc de la pertinence.
Ouais. Après, dans Cursor, je ne sais pas, mais dans VS Code, tu définis les outils en général dans ton prompt, mais après, je ne sais pas comment ça marche. Ouais, après, les MCP se coupent tout seuls aussi.
Ouais, après, sur Cursor, tu vas pouvoir les activer ou les désactiver. Moi, le seul que je laisse quasiment tout le temps activer, c'est Context 7. voilà, oui. Parce que... Ouais.
D'ailleurs, épisode de podcast sur Context 7, on avait fait, je rappelle. Ah oui. On a fait un épisode, non ?
Ok. Vas-y. Oui, peut-être. Non, c'était un workshop. Je crois que c'est une vidéo.
Un workshop.
Je crois que c'est une vidéo sur. Je crois que c'est une vidéo workshop où justement on explique comment on utilise le MCP Context 7 pour limiter ses hallucinations, optimiser la véracité des informations qui sortent des modèles, limiter les hallucinations et être toujours sur la dernière version à jour, ou en tout cas notre version à nous. Context 7, super YouTube vidéo qu'on a mis en place.
Sinon, on peut quand même, alors parce qu'on a peut-être des gens qui nous écoutent et on parle de MCP depuis tout à l'heure, et c'est quoi MCP? vite fait, mais je pense qu'il faudra faire un épisode sur le MCP puisqu'on a déjà fait des épisodes sur les RAG et sur l'IA.
Oui.
Ça sera peut-être le troisième épisode IA de l'année. Et les MCP, en gros, c'est simple. On crée un serveur MCP. C'est comme une API, en fait. Tu as des routes qui sont accessibles. Et ces routes-là, on va les donner au LLM. Et du coup, ça lui fait des outils. Donc, l'exemple le plus commun qu'on donne, c'est la météo. Donc, tu vas lui donner « Donne-moi la météo sur Lyon ». Et donc, le LLM sait qu'il a un outil pour trouver la météo, où il donne en query la ville de Lyon. Et donc, il va appeler ce serveur MCP avec la ville de Lyon, et le MCP va lui répondre. Et du coup, il va générer une réponse grâce à ça. En gros, ça, c'est comme une API qui donne des outils à un modèle, tout simplement, pour vulgariser vraiment le truc, quoi.
Ah, t'es d'accord? Clairement. Pour moi, c'est vraiment l'API des LLM.
C'est ça.
Pour les développeurs, souvent avec un développeur, il va largement comprendre. Mais ouais, je pense que ça peut être intéressant. Une fois de plus,
ouais, faut qu'on fasse un épisode.
Petit commentaire.
Mettez un petit pouce.
Motivez-nous à faire cet épisode de MCP. Allez, on rebascule dans notre signal de Cloudflare qui vient avec des Giving Choice. Qu'est-ce que c'est que ça là?
Attends, on voit plus ton navigateur. Tac. Ok, Cloudflare, donc on a déjà parlé dans d'autres épisodes. En fait, ils font un petit peu la guerre, entre guillemets, aux bots IA pour leur faire respecter un petit peu le contenu, parce que c'est un peu tout, c'est le Far West en ce moment, quoi. Les bots viennent sur tes sites, prennent ce qu'ils veulent et repartent. Notamment, la problématique, c'est que ça amène beaucoup de charges supplémentaires. Pour rien, puisqu'en fait finalement ils viennent te voler ton contenu et ils te font des visiteurs en plus, ils te font une charge serveur en plus sur ton site, sauf que toi tu gagnes rien là-dedans. Donc Cloudflare se bat un petit peu contre ça. Donc on avait déjà parlé d'un système où ils essaient de mettre en place un crawl to pay, c'est-à-dire que pour les gros médias en fait, les OpenAI etc. paieraient au crawl pour récupérer les data etc. Donc ça c'est toujours en cours, et là celui-là c'est un nouveau système qui serait sur les robots.txt, donc un nouveau nouvelle indication sur le robot.txt qui le content signal policy qui dirait au bot ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. Donc, en fait, dans l'interface Cloudflare, tu vas l'activer. Donc, en gros, du coup, maintenant, c'est Cloudflare qui va gérer ton robot.txt. Donc, il va récupérer ce que tu avais déjà dans le robot.txt pour le mettre à la fin. Et lui, il va rajouter des directives au-dessus. Donc, notamment, tout un texte au début qui explique au bot, IA, parce que le bot comprend, hein, il sait lire, ce qu'il a le droit de faire, etc., par rapport à la loi européenne, etc. Donc voilà, et ensuite, il y a des indications, donc cette nouvelle indication qui n'est pas encore prise en compte par tout le monde, notamment pas par Google, pas par OpenAI. OpenAI a dit qu'il le prendrait en compte le jour où ça sera officiel, etc. Ouais, mais par contre, Bing le prend en compte. Enfin, il y en a plusieurs qui le prennent déjà en compte. Donc c'est ce content de signal où tu vas dire « search yes », ok, donc tu peux crawler pour la recherche. Par contre, pour le AI train, tu peux pas. Voilà, tu vas pas entraîner ton modèle sur mes données. Voilà, donc ça fait partie voilà de ces indications qui sont en train d'essayer de faire normaliser et généraliser.
Ouais, en fait, ils font une sorte de lobbying proactif en disant nous, on vient mettre une technologie en place et on essaye que ça devienne une sorte de standard pour que on vienne un petit peu réguler tout ça. Évidemment que tous les gros opérateurs qui scrapent de la donnée à tout va vont se réfugier derrière en disant tant que c'est pas légal, nous on sait pas. Et donc tout le monde se regarde, quoi. Pour faire court, tout le monde va se regarder. Au moins, l'avantage, c'est que Cloudflare, en fait, essaye d'être proactif et vient donner des brides de solutions. C'est plutôt à restriction. C'est-à-dire, on donne la permission ou pas. On prend en compte, en fait, le web et l'auteur et les droits d'auteur et tout ce qui va derrière. Donc, c'est plutôt une bonne démarche, je trouve, de Cloudflare d'essayer, en fait, de pousser leur propre nomenclature, soit, mais au moins de mettre à disposition la possibilité de dire « Toi, tu viens pas scraper mes données, quoi. »
Ouais, c'est ça. C'est intéressant parce que, en plus, derrière, dans le dashboard de Cloudflare, une fois que tu as mis ça en place, tu as les stats, en fait. Tu as les stats des bots quand ils sont venus, s'ils sont pas venus, s'ils ont été bloqués, etc. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et c'est vrai que ça... Enfin, on en est encore qu'au début, mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est mitigé entre l'éditeur de site qui a envie de faire... on a déjà parlé plusieurs fois, mais d'apparaître dans les réponses de ChatGPT, mais en même temps, il veut pas que ça soit entraîné sur ses données, tu vois, voilà. La décision est pas évidente, mais en tout cas, Cloudflare avance dans ce sens pour décider si tu veux ou pas que le bot vienne scraper.
Ouais, si on laisse le choix au propriétaire du site, c'est plutôt bien, quoi.
Ouais.
Là-dessus, on est d'accord. Allez, petite utilitaire. Alors, moi, je suis sur Mac, toi aussi, tu es sur Mac, mais qu'on soit sur d'autres plateformes, il y a la possibilité aussi d'utiliser super outil qui va en fait faire de la transcription automatique pour nous et de manière open source. Aujourd'hui, Whisper, en fait, le modèle OpenIA de transcription donc de paroles vers du texte est accessible. Et donc, il y a plein de gens qui l'ont décliné en plein de logiciels, plus ou moins payants. Par contre, l'avantage de celui-ci, c'est qu'il est gratuit, open source et qui tourne en local.
Ouais, c'est un super outil. Alors Whisper, vous l'avez certainement déjà essayé, mais il est vraiment très bon pour transcrire de la voix en texte. La plupart du temps, il se trompe jamais, en fait. Donc très efficace. Et c'est un modèle qui n'est pas énorme, donc on peut le faire tourner sur une machine sans avoir une machine de guerre. Hein. Il peut tourner en local. Et c'est vrai qu'il y avait déjà des logiciels, mais là, celui-là, Andy, est compatible à toutes les plateformes. Ça tourne en local. Et en fait, tu peux, via un raccourci clavier, d'être dans n'importe quelle application. Hein. Une fois que tu as ton curseur, par exemple, là, l'exemple, c'est dans Word ou dans je ne sais pas quoi, tu as le curseur qui est dans ta page, tu parles et il va écrire tout ce que tu as dit directement. Voilà. C'est vraiment bien fait.
Ouais, non, c'est vraiment bien fait. Tu viens déclencher l'écoute. Là, tu vas parler, tu vas stopper l'écoute et lui, il va prendre ce segment d'écoute et il va le transcrire de manière très, très rapide et, comme tu l'as dit, avec une pertinence plutôt assez élevée. Et ce qui est, moi, je trouve trop fort, c'est que ça marche dans tous les applicatifs, en fait. Ça marche sur ta machine et donc c'est cross, c'est partout, quoi. Et ça, c'est vachement top, quoi. C'est là où tu peux taper, en fait, tu peux utiliser et tu peux dicter, en fait. C'est un peu le concept. Et ça, c'est vachement fort. On en parlait tout à l'heure en off, mais moi, j'écris tous mes emails avec ça, quoi. C'est-à-dire, aujourd'hui, je dicte tous mes emails, je gagne un temps de ma boule. Derrière, j'ai un petit script, un petit prompt qui vient reformater de manière propre, corriger les fautes d'orthographe s'il y en a, ou de grammaire, ou voilà, tout est corrigé automatiquement, mais je gagne un temps de ma boule, vraiment. Vraiment.
Ouais, moi j'ai pas encore ce réflexe. Je suis pas trop vocal, mais par contre je fais corriger par Care League les emails, tout ça, le texte, toujours.
Moi,
pour
j'ai
des
pas
fautes,
le choix.
Des petites fautes, tout ça.
Moi j'ai pas le choix. yes. Allez, on bascule sur des choses un petit peu plus légères et un petit peu plus visuelles. Alors, on est bien loin du terminal et de Cloud Code ou de CLI. On est en fait sur un article de Emil Kowalski, qui est un designer ingénieur. Et qui vient en fait nous donner des recommandations sur les animations et les interactions. Clairement, on est sur de la petite subtilité, non ?
Là, on est vraiment sur sur vraiment le détail, quoi. Quand on est là, c'est que ton projet il est parfait. Tu as juste à corriger quelques détails d'animation. Là, c'est beau. J'aimerais bien un jour en être là, tu vois.
Ouais, mais pour le coup, tu vois, on pourrait dire ouais, c'est vraiment bidon.
Mais ça, c'est vrai que c'est pertinent.
Mais ça fait, en fait, c'est ce tout petit truc qui fait que l'animation ou l'effet ou l'interaction, en fait, bah ça donne une autre dimension, quoi. Clairement. Après, ça reste vachement de travail pour mettre ça en place. Mais ce petit extra, ce travail extra va donner vraiment une autre dimension. On est bien d'accord que quand vous êtes sur un truc MVP qui va être pété ou une V1 où vous êtes tout seul, ce niveau de détail, le client n'est pas prêt à payer ce prix-là. Donc, c'est plutôt pour des boîtes déjà en place, qui veulent améliorer. Ouais. Voilà, on est
après,
plutôt
c'est pas
sur cette maturité.
Si tu lis l'article, c'est pas des choses très compliquées à mettre en place. Hein. Il explique juste de faire les bons choix, comme la bonne transition. Il explique comme de ne pas mettre une transition sur le scale ou des trucs comme ça. En fait, c'est juste des petits détails qui changent en fait, ton animation et qui la rendent beaucoup plus pro, en fait. Finalement, c'est pas très compliqué ce qu'il donne comme tips. Hein. Tu vois, ça peut être la durée du. Là, par exemple, sur le select, c'est l'ouverture du select. C'est juste réduire la durée de l'ouverture, tu vois. Et c'est vrai que c'est plus agréable quand c'est plus rapide que la version lente, tu vois. C'est tout bête, mais en fait, finalement, tu vois, de passer de 400 à 180, bah, ça change tout, en fait.
Ouais. Mais ouais, c'est vraiment. Et c'est là où toute la subtilité, elle est, quoi. C'est que il y a cette notion de truc, ouais, ça va rien changer. Bah en fait, si, ça change parce que c'est des micro trucs, mais on voit la différence, quoi, vraiment.
En fait,
on
c'est la perception vraiment, ouais. De la qualité du produit qui change, en fait, de l'utilisateur. Qui lui, forcément, il saura pas pourquoi il trouve que c'est plus qualitatif, mais toi, tu sauras parce que tu auras voilà, travaillé ces animations.
Mais lui, en fait, il ne va pas savoir pourquoi, mais il voit que, ah putain, c'est mieux, quoi.
Il y a un truc de mieux, ouais.
c'est ça.
Et c'est un peu à la Apple, tu vois. À la Apple, tu sais pas. C'est, voilà.
C'est subtil.
Petits détails, quoi.
Très, très, très subtil. Yes, et bien sur cette touche de subtilité, je te propose, Patrick, qu'on en reste là pour cet épisode. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout de l'épisode. Comme d'habitude, un petit pouce, un petit like, un petit commentaire. Partagez la bonne parole. Et pour ceux qui le souhaitent, le GitHub Sponsor est là pour vous. Un grand merci à vous.
Merci,
et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.
Ciao.